Et à 23h16 sur France Inter, c'est l'heure de partir avec Marie-Pierre Planchon.
Merci Maxime Debs, à tout à l'heure à minuit pour d'autres infos.
La radio.
Je suis née à Paris.
En Bretagne.
Nous habitions une ferme sur 25 hectares.
J'ai commencé très jeune à militer. J'étais convaincue que nous allions changer le monde.
Ça, c'est le monde que tu connais. Voici le monde tel qu'il existe aujourd'hui.
Amis du soir, bonsoir. Je vous propose ce soir de rencontrer une jeune femme dont le rêve est d'apaiser la souffrance des autres et d'embellir le monde en aidant ce qu'on a oublié. Petite fille de déportés arméniens, Élise Bogossian a décidé très jeune de s'engager auprès des victimes de guerre. D'abord en Arménie en 2002, puis en Jordanie, en Syrie et aujourd'hui au Kurdistan irakien. Le parcours d'Élise peut surprendre. Spécialisée en neurosciences, elle s'est formée à la médecine traditionnelle chinoise à l'université de Nankin. Elle a également étudié l'anesthésie et les mécanismes de la douleur par l'acupuncture au Vietnam. C'est ainsi que cette maman de 3 enfants a trouvé le courage d'aller soulager la douleur des blessés de guerre. Grâce à son association Chenang et Avicenne, engagée dans l'action humanitaire et bien déterminée à aider les populations du Kurdistan irakien après l'offensive de Daesh, elle a pu créer un dispensaire mobile avec plusieurs médecins dans la région d'Erbil qui accueille plus de 500 réfugiés par jour. Pour Élise, impossible n'est pas français. Partir avec Élise Bogossian, c'est ne plus rester insensible à ce qui se passe dans certaines parties du monde. Dans ce bureau, qu'est-ce qu'il y a d'arménien ?
Ce petit photophore là, je l'ai acheté en Jordanie dans un. C'était le dernier jour avant de rentrer en France. Je venais de finir une mission auprès des blessés syriens et j'apprends qu'il y a un artisan arménien dont la famille avait été convertie de force à l'islam après le génocide des Arméniens, et il avait son petit atelier en bas du downtown, vous savez, dans le quartier populaire d'Amman, et je voulais absolument visiter sa boutique, et lorsque je suis arrivée, j'ai vu ce photophore avec, vous voyez, ça représente des petites mosquées, des églises, enfin, de toutes les couleurs, vous pouvez mettre une bougie à l'intérieur, vous voyez, il y a des croix, il y a des symboles de toutes les religions du monde, et il venait de le terminer, et moi je prenais l'avion le lendemain, et voilà, je lui ai acheté ça.
Il y a quelque chose écrit.
Son nom.
Ah, d'accord.
Il s'appelle Kokosian. Okay. Et vous voyez, c'est écrit en Jordanie. Et là, ça représente un village traditionnel typique de Jordanie. En fait, j'ai rien d'autre d'arménien ici. Il y a des objets de Chine, de Corée, du Vietnam, de Tibet, mais...
Vous ramenez souvent des souvenirs ?
Souvent en vacances, mais pas souvent de mission. Non.
Il y en a
non,
pas.
Non, pas beaucoup. C'est d'autres souvenirs, oui. Ça reste plutôt dans le cœur ou dans les esprits, mais non, je reviens pas. Si une fois j'étais revenue du Vietnam avec une broche qu'une vieille dame qu'on soignait, une vieille dame qui avait été amputée, avait dans ses cheveux. Et j'aimais beaucoup cette espèce de petite broche qu'elle se mettait tous les matins quand elle venait nous voir. Et le dernier jour, elle me l'a offerte.
Partir avec Marie-Pierre Planchon.
Écoutez l'histoire émouvante d'Élise Bogossian. Une histoire réalisée et habillée par Simone de Poux, préparée par Corinne Valente, mixée par Élise Christophe et Philippe Duclos, c'est Monsieur Djoubaka qui a signé la programmation musicale.
Sur France Inter.
Si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens.
Élise Bogossian, d'où venez-vous ?
Pourquoi vous levez les yeux ?
Ben, on vient tous de quelque part. Après, c'est vrai que plus tard, on regarde derrière, on se dit bah, « Tiens, d'où je viens ?» Finalement, on prend des chemins assez curieux dans la vie. On démarre d'un point A et puis on fait des rencontres, on vit des expériences qui nous conduisent dans des endroits qu'on n'aurait jamais pensé aller. J'ai une vie assez banale. Je suis née en banlieue parisienne. Je suis française d'origine arménienne, issue de la 3e génération du génocide arménien. Donc mes parents étaient des immigrés et j'ai eu une enfance assez classique, plutôt bien. Mais c'est vrai que quand on regarde derrière soi, finalement, Ce que je retiens de tout ça, c'est que mon enfance a été bâtie sur deux socles. Il y en a un qui est plutôt sombre, c'est celui d'une mémoire, d'une histoire qui est très douloureuse, qui est tragique, qui est l'histoire d'un peuple qu'on a décidé d'exterminer, un peuple qui est éclaté dans le monde entier, un peuple qui a été profondément humilié, voire trahi. Quand on la vit de l'intérieur, c'est une mémoire tellement forte qui peut même tuer l'identité propre de chacun de nous. Et à côté de ça, ce deuxième socle qui m'a été hérité de ma famille m'a beaucoup élevée dans des valeurs comme le travail. Et c'est vrai que je me suis beaucoup attachée à ça, à travailler, à réussir, à ne pas être justement dominée par cette mémoire, par cette histoire. Et là, un servi de carburant à l'autre, ça m'a toujours donné une espèce de moteur, de force de vie, d'envie de dépasser ce qui est limité, voire même peut-être forcer son destin et se dire, eh bien non, moi je ne serai pas victime dominée de cette histoire-là, et l'envie de réussir pour changer son propre destin et puis même celui des autres. Ça m'a beaucoup habité pendant longtemps.
Vous vous souvenez de la première fois peut-être où vous avez pris conscience de ça ?
La première fois, oui, c'était mes premiers cours d'anatomie. J'étais toute petite, mon père m'emmenait souvent dans une bibliothèque où je passais du temps et je voyais ces corps humains et je me disais, c'est fou, on vient de rien. Il y a tout un mystère sur cette vie. Ce qui m'a fascinée, ce qui m'a attirée, c'était cette espèce d'inconnu, de mystère, de magie presque. Et derrière, cette envie de construire, de changer le cours des choses. J'avais même des espèces de fantasmes, de combattre la mort, de remonter le temps. Et oui, ça m'a beaucoup marqué ces mercredis-là, ou ces samedis, dans cette bibliothèque où j'imaginais que je pouvais, par la simple volonté, changer le cours des choses. C'est magique, finalement, ce qu'on pouvait apprendre dans les livres. C'est pareil, la première fois que j'ai appris une langue, bon, j'ai été bercée par plusieurs langues, puisque ma langue maternelle était l'arménien, ma grand-mère venait de Turquie, mais surtout après, quand j'ai commencé à apprendre l'anglais, l'italien, la langue des signes, le chinois, je me disais, c'est magique, finalement, tout ce qu'on peut faire. On peut parcourir le monde, on peut rencontrer des gens, des cultures, on peut rencontrer d'autres peuples aussi, et puis derrière, effectivement, l'histoire de ce que nous, on avait vécu, j'avais une attirance très forte pour les autres cultures, les autres peuples. Du coup, j'étais dans un espèce de monde imaginaire où je voyageais beaucoup et je rêvais beaucoup et j'imaginais une espèce d'avenir où je pouvais comme ça changer le destin, le cours des choses.
Quel enfant étiez-vous ? Vous avez des frères et sœurs ?
On est trois. On était plutôt sages. On porte la mémoire de nos disparus. On porte la mémoire de ceux qui n'ont pas été enterrés, de ceux qui n'ont pas été reconnus, de toutes ces terres spoliées, de toute cette exode, de cet exil. On imagine cette souffrance. Et puis aujourd'hui, dans ce que je vis, dans mon travail, je la regarde en face. Je la vis par résonance avec les gens que j'essaye de soigner. C'est vrai que c'est un drame immense parce qu'on touche à l'humanité, on touche à l'essence même de la vie. On se dit, mais qui a le droit de faire ça ? Sous quel droit on peut faire ça ? Est-ce qu'on peut s'arroger cette liberté-là de décider parce que vous m'encombrez, je vous débarrasse, quoi ? Et oui, ça, c'était très difficile. Et en même temps, je pouvais pas accepter l'idée de me replier sur ce passé, sur cette histoire, sur cette mémoire qui, à bout d'un moment, devient très stérile, que ça entraîne un repli sur soi, ça fait qu'on regarde toujours derrière soi, on n'est pas tourné vers l'avenir, on n'est pas joyeux, on n'est pas capable d'avoir cette aptitude à vivre le bonheur avec des choses simples. Et moi, ça m'a servi de carburant. Je me suis toujours dit, j'avais décidé très tôt que je serais jamais dominée par cette mémoire-là, que je travaillerais pour être libre, pour être autonome, dépendre de personne, et puis faire ce que j'aime. Mais c'était pas égocentré, finalement, c'était pour pouvoir aider des gens qui ont vécu ça, en fait.
Justement, je me demandais si, déjà toute jeune, ou même adolescente, il y a des choses qui laissaient présager qu'un jour, plus tard, adulte, vous alliez vous diriger vers l'humanitaire.
Oui, ça c'est curieux, mais c'est quelque chose que j'ai toujours su. Je ne savais pas trop comment, je me suis longtemps cherchée. Au départ, je voulais être chirurgien. Et puis après, quand je faisais ces cours de biologie à l'école, j'étais fascinée. Je voulais faire de la biologie, je voulais faire des neurosciences, je voulais faire de la médecine. Mais je savais que c'était pour soigner, pour guérir, pour soulager, pour apaiser, pour combattre une forme d'angoisse de mort, d'angoisse de vieillesse, d'angoisse de souffrance. Je ne pouvais pas accepter l'idée qu'on puisse souffrir passivement. Je me disais, c'est pas possible, il y a des solutions, il y a une issue. Moi, je voulais à ma manière apporter ma contribution. J'ai toujours su que je ferais l'humanitaire, oui.
Élise Bogossian, qu'est-ce qui vous a donné envie d'étudier la médecine chinoise et l'acupuncture ?
J'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui la pratiquaient en France. Et puis, je trouvais qu'il y avait une espèce de magie dans cette façon d'utiliser des vieux principes, des espèces de vieilles théories philosophiques basées sur des concepts complètement surannés, le yin, le yang, les cinq éléments, qu'est-ce que c'est tout ça. Puis finalement, de voir qu'on traitait une personne comme une entité, et puis surtout de s'apercevoir que cette médecine-là, qui est la plus vieille médecine du monde, hein, j'étais assez fascinée.
Et comment on se retrouve comme ça, une jeune fille en Chine, en train d'apprendre la médecine chinoise ? C'est tout un parcours. Comment vous y êtes arrivée ?
Eh bien, j'ai rencontré des médecins qui la pratiquaient. Et puis, un jour, je suis rentrée chez mes parents et j'ai dit, je veux faire ça. Et je voulais absolument partir en Chine.
Vous aviez quel âge ?
J'avais 19 ans. Et j'ai vendu de la paella dans un supermarché pendant plusieurs mois les week-ends pour pouvoir payer mon premier billet d'avion.
Et je suis déjà déterminée.
Têtue, surtout. Et je suis partie comme ça à Pékin.
Et en France, vous étudiez quoi à l'époque ?
C'était les neurosciences. Parce qu'à l'époque, en neurosciences, je travaillais sur les circuits de la douleur. Et donc, j'avais proposé une co-tutelle avec l'hôpital de Hanoï. Et après, je suis partie à Hanoï, au Vietnam, voilà, dans un hôpital créé par un médecin de guerre, qui était un professeur très connu, il est encore vivant et très âgé, il s'appelle le professeur Nguyen Thai Thu. Il avait une grande expérience sur les blessés de guerre, il avait créé son centre de prise en charge de la douleur chez les blessés de guerre, il y avait une unité de prise en charge des toxicomanes, il y avait un centre dans son hôpital où il opérait les patients sous anesthésie par acupuncture. J'ai fait l'anesthésie dans son service. C'était magique parce que vous assistez en tout à une soixantaine de types d'opérations. opérations, mais quand je vous parle des opérations, ça va de l'extraction dentaire à l'hystérectomie totale, l'opération du canal carpien, enfin, toutes sortes d'opérations comme ça qui durent entre 1 heure et 8 heures. Puis finalement, avec comme anesthésie uniquement l'acupuncture, c'était absolument magique. On travaillait aussi de nuit parce que les patients en sevrage, les toxicomanes, hein, qui venaient, les héroïnomanes, qui venaient se faire hospitaliser pendant 7 jours pour une cure de désintoxication, on les traitait par acupuncture avec des électrostimulations et c'était assez impressionnant parce que là aussi ils avaient tout un tas de dosages d'urine, de prise de sang, de scan pour vérifier en fait l'état de dépendance avec des mesures très précises. Bon, quand ils sont en manque et qu'ils viennent d'arriver, il faut les piquer toutes les 4 heures, y compris la nuit. Donc là on avait tout un circuit de rotation de nuit, on travaillait en équipe avec des médecins, tous des Vietnamiens.
Comment explique-t-on cette anesthésie par aiguille ? En quelques mots, si
alors,
on peut.
Il y a des études qui ont prouvé déjà que l'acupuncture mime dans le cerveau l'effet de la morphine, en sécrétant un ensemble de neurotransmetteurs qui vont agir à distance sur les tissus, soit cicatriciels, soit les tissus opérés, soit des organes, voilà. Et puis, il y a eu d'autres études chez l'animal qui montrent aussi que quand on stimule certains points d'acupuncture, on provoque une sécrétion d'adénosine, qui est une molécule antalgique importante, qui a un rôle important dans la prise en charge de la douleur. C'est quelque chose qui est très connu, quelque chose qu'on utilise depuis toujours, en fait, en médecine chinoise. Il y a même des légendes dans des vieux manuscrits chinois qui racontaient déjà cette histoire, par exemple, d'un soldat qui se prend une flèche, qui tombe de son cheval, et puis à un moment donné, il ne peut plus marcher, il souffre de douleur, il se prend une deuxième flèche au niveau du tendon d'Achille, et puis, miracle, il se relève, il finit la guerre, il la gagne. Et en fait, ce point d'acupuncture, ce deuxième point qu'on appelle Kunlun en médecine chinoise, c'est un point d'acupuncture très connu qu'on appelle ce point le point aspirine. Et on l'utilise beaucoup pour les douleurs, mais il y en a plein des histoires comme ça. Et
c'est ce qui vous fascinait aussi ?
Oui, c'est que finalement, il y avait toujours une logique, soit une légende, soit une histoire, soit une symbolique derrière le nom chinois du point d'acupuncture, et soit tout simplement une logique sur le concept, le mécanisme derrière neurobiologique ou neurochimique, qui permettait finalement de faire des jonctions assez facilement entre nous, notre science moderne, et les traditions ou les pratiques anciennes, et finalement on se dit ben, c'est pas si bête que ça, c'est en fait une médecine plutôt logique. Une fois qu'on a compris que le corps humain il est traversé par des espèces de faisceaux énergétiques qui relient l'intérieur du corps à l'extérieur du corps, que finalement notre corps est soumis à des variations de climat, d'émotions, de stress, de choc, de traumatisme, qui ont des conséquences au niveau des viscères, au niveau des organes, qui peuvent expliquer des symptômes comme par exemple le mal de tête et la douleur des règles en même temps, mais finalement c'est le même système organique qui est impliqué, et que du coup en agissant sur un seul point on peut traiter les deux en même temps. C'est très poétique quand on apprend les points d'acupuncture et des espèces de poèmes pour apprendre leur signification, les principes de traitement. Pareil pour la langue. Quand on observe la langue d'un patient, les Chinois disent c'est comme regarder un scanner, en fait, où on est capable de voir beaucoup de choses sur comment fonctionne le corps humain, dans quel état d'affaiblissement il est, dans quel état d'épuisement il est, quel est l'état de la réserve, comment sont les organes vitaux, le rein, le foie, le poumon, le cœur. Et ces organes-là, on en a des défini 5 principaux qui sont reliés à des organes couplés, qui ont eux-mêmes leur faisceau d'énergie, qui ont eux-mêmes leur correspondance avec des éléments. Mais ça, c'est une théorie qui permet de comprendre comment, finalement, en observant la nature, c'est comme par exemple quand on voit une forêt qui brûle, voilà, il y a un incendie, il y a du feu, la terre est sèche, c'est l'été, il y a de la fumée. Et par exemple, vous avez, je sais pas, une crise de migraine ou une hypertension importante associée à des tachycardies, à des urines sombres, eh ben, on pourra, comme ça, de manière imagée, vous dire bah oui, vous avez un feu interne, un feu au niveau du foie, qui engendre du vent. C'est pour ça que vous avez l'hypertension, les maux de tête ou l'insomnie, parce que le vent se manifeste en haut du corps. C'est pas juste du baratin, quoi. C'est une symbolique.
Une autre approche.
Une autre approche. Et puis, comme c'est traduit du chinois, ça peut paraître comme ça un peu fou, mais ça permet de mieux comprendre que finalement, on est aussi relié à la nature, qu'on vit, la manière dont on développe des maladies. Et finalement, d'anticiper, c'est pour ça que la médecine chinoise est aussi une médecine de prévention, On arrive comme ça à freiner l'évolution des maladies, mais c'est pas juste du concept, on le voit vraiment au cabinet, aussi bien en cancérologie par exemple, quand on traite les patients pour les effets secondaires, quand ils sont accompagnés par la chimio, on s'aperçoit que bah oui, 50% des malades perdent pas leurs cheveux, ils n'ont pas de nausées, tous les syndromes périphériques comme les névrites ou les fourmillements dans les mains, les pieds, tout ça, bah, on arrive à complètement stopper ces symptômes-là. Ce sont finalement les bourgeons, l'expression d'un syndrome profond, dont la cause, l'origine, n'est pas forcément celle que nous, on définirait avec les termes de la science moderne.
Élise Bogossian, c'est donc avec ce professeur vietnamien que vous approchez la médecine chinoise aussi, grâce à des blessés de guerre.
Oui, la première fois que j'ai vu, je ne m'y attendais pas du tout. En fait, je ne savais pas qu'il faisait ça, parce que moi, j'étais allée pour l'anesthésie au bloc opératoire. Et puis, un jour, on a un vétéran, une vieille personne qui arrive. Et puis, je me retourne pour aller me laver les mains avant de le piquer. Et au moment où je reviens auprès de lui, je vois une prothèse par terre. Et là, tout à coup, ça me fait un effet de choc, parce que je n'avais jamais vu, en fait, un amputé de ma vie. Et je demande à mon professeur qu'est-ce que je dois faire, parce que j'ai jamais piqué en fait un amputé de ma vie, je sais même pas comment soigner sa douleur. Ces personnes-là qui sortent d'une guerre traînent des douleurs vraiment débilitantes, des douleurs handicapantes, des douleurs à rendre fou. Et la première fois qu'on a soigné un blessé de guerre, oui, ça m'a marqué. Comme je vous disais, l'acupuncture mime l'effet de la morphine. Quand on fait des stimulations répétées, on arrive à avoir un effet antalgique assez puissant. Et ma première expérience sur les blessés de guerre, c'était à Hanoï avec ce professeur-là.
C'est cette expérience qui va vous donner par la suite ce désir d'aller aider sur le terrain, tout d'abord en Arménie et plus tard en Jordanie et puis actuellement au Kurdistan. Cette envie donc d'aider ces gens qui ont été blessés pendant une guerre.
Surtout, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on peut être utile. Quand je me suis retrouvée en Arménie après la guerre du Karabakh, il y avait beaucoup de soldats qui revenaient, qui étaient blessés. C'est une technique qui peut être utile. La médecine de guerre, c'est une médecine assez dure, finalement, parce que c'est une médecine où on sauve des vies, on arrache les gens à la mort, on les ampute, on a des cas très graves de brûlés, de paralysés, de gens qui ont été pris dans des explosions. On a l'impression que rien ne pourrait être efficace, et pourtant, la prise en charge de la douleur, c'est quelque chose qui est tellement pas facile de prendre en charge, et puis il y a beaucoup de médecins qui baissent les bras là-dessus, parce que c'est un état chronique où, à part prendre des traitements à vie, il n'y a rien à faire, et puis même les traitements à vie, ça ne marche pas toujours, et puis les patients, toute la cohorte des effets secondaires quand on prend des morphiniques puissants ou des antiépileptiques ou des... Enfin, vous voyez, c'est des traitements tellement forts que, oui, je trouvais ça extraordinaire de me dire, ah ben tiens, avec un outil comme celui-ci, je peux être utile. En plus, ça prend pas de place. Et puis, comme j'avais cette passion-là, de cette médecine, de ce que j'étais en train de découvrir aussi, oui, j'avais envie de le partager, de le répandre.
C'était une façon de rendre hommage aussi aux vôtres, de retourner en Arménie?
Oui, en quelque sorte. Mais en même temps, j'étais tournée vers d'autres pays aussi. Ce n'était pas uniquement l'Arménie. Après, c'est vrai que la première fois que je suis allée en Arménie, c'était très émouvant. Vous arrivez dans un pays où tout le monde parle votre langue. C'est génial. Enfin, c'est impressionnant. Enfin, moi, ça ne m'était jamais arrivé. Et puis en plus, c'est votre premier voyage. Vous venez dans un contexte humanitaire. Oui, c'était une façon de revenir peut-être aux sources avec en plus l'impression d'être utile.
Il faut du courage pour pouvoir supporter ces images-là. Il faut l'encaisser, cette souffrance que l'on voit.
Oui.
Comment vous faites? Parce que vous rentrez, en plus vous devez vous occuper de 3 enfants. C'est d'un monde à l'autre. Comment vous naviguez?
Je pense qu'on tient avec l'adrénaline au début parce que on est porté en quelque sorte sur place, on n'a pas le temps de se poser la question, bah tiens, ce que je viens de voir, ce que je viens d'encaisser, ce que je viens d'entendre, mais c'est tellement rien à côté de ce qu'eux y vivent. Et puis on s'aperçoit aussi que sur place, il n'y a vraiment pas tellement de gens qui sont là pour aider. On s'aperçoit aussi de cette immense injustice de ce que ces gens vivent. On se dit, c'est pas possible, on est en 2015, ça existe encore. Ces atrocités-là, et c'est vrai qu'on vit dans un monde numérique où finalement on zappe l'information très facilement.
et ces gens-là qui restent dans les mêmes conditions. Bah, la première fois que j'ai entendu qu'un réfugié passait en moyenne 17 ans de sa vie dans un camp, mais je me suis sentie écrasée. Je me suis dit, mais personne ne le sait, ça. Imaginez-vous, 52 millions de réfugiés dans le monde. On se dit, mais... Puis on pense à tous ces enfants qui sont déscolarisés, toute cette génération détruite, tous ces gens qui n'ont pas choisi ce destin-là, qui le subissent de plein fouet. Pour répondre à votre question, non, on n'a pas froid aux yeux, on a envie de se battre pour eux, on a envie de les aider. Alors après, c'est vrai qu'il y a un moment, celui où vous êtes dans l'avion, vous attachez votre ceinture pour rentrer à la maison. Ça, c'est génial. C'est déchirant en même temps parce que vous avez plongé dans un univers où vous avez donné presque tout, j'allais dire, et puis dans un univers où vous avez mis de votre âme, vous avez mis de votre sincérité, vous avez mis de votre amour parce que vous êtes dans des relations authentiques, donc vous pouvez pas être juste un technicien. Et à ce moment-là, où vous attachez votre ceinture parce que vous avez fait votre part. Vous rentrez, retrouvez votre confort, vous réalisez cette chance que vous avez. Et puis, moi, souvent, j'ai pensé à ces femmes que je voyais dans les camps qui avaient mon âge. Elles seraient aujourd'hui dans ma vie, elles seraient à ma place, des femmes qui réussiraient probablement mieux que moi, des femmes très intelligentes, des femmes qui ont l'air très mûres, des femmes qui ont l'air très ancrées. Et puis, elles sont assises toute la journée dans leur tente, à attendre le temps qui passe, à se demander qu'est-ce qu'elles vont donner à manger à leurs enfants, à se demander comment elles vont demain pouvoir continuer à vivre, quel avenir pour leurs enfants. Et quand je suis dans l'avion et j'attache ma ceinture et je pense à cette femme-là, notamment une qui a eu son enfant enlevé sous ses yeux, un enfant qui a l'âge du mien, et je me dis, oui, c'est merveilleux, je rentre à la maison, je suis hyper émue quand je retrouve les miens. C'est merveilleux parce qu'en même temps, il vous ancre à la vie, il vous aide à ne pas perdre le pied, il vous aide à ne pas basculer. Parce que c'est vrai qu'on est tenté, il y a une forme d'addiction aussi quand on est dans ce monde-là, de surpassement presque. Il y a quelque chose de très addictif parce qu'on peut toujours faire mieux, on peut toujours donner plus, on peut toujours continuer, on peut ne jamais s'arrêter. Et il y a un effet presque d'accoutumance. Et je trouve que c'est important d'avoir un socle qui nous ancre quand on rentre. C'est important. On a beau passer sa vie à penser.
S'appelle Shenang and Avicen. C'est donc dans la région du Kurdistan.
Il est 9h du matin, le camion jaune immatriculé en France quitte Erbil pour filer vers le nord du pays.
Dans ce camion, actuellement, nous sommes en train de soigner des gens, des anciens combattants contre Daesh.
Shelek Al-Jobek est un pharmacien syrien. Comme la plupart des autres médecins de l'équipe, c'est un réfugié. Au départ, il n'était pas prévu dans le dispositif, mais sa ténacité a payé, son histoire personnelle aussi.
Je suis de Kobané. J'avais 3 pharmacies. J'ai tout laissé lors de l'offensive menée par le groupe État islamique l'été dernier. Ça a été très dur au début. Mais maintenant, j'aide ces gens. C'est mon destin. Nous sommes tous humains.
Dehors, ces petites filles sont contentes de voir des étrangers. Cette présence rassure, alors que les combattants de Daesh sont à moins de 100 kilomètres.
Si les Français ne nous aidaient pas, on serait peut-être tous morts ici.
Marie-Pierre Planchon sur France Inter.
En 2002, Élise Bogossian décide de créer avec des amis étudiants l'association Shennang et Avicenne pour promouvoir en France, dans les hôpitaux, la médecine traditionnelle chinoise et l'acupuncture. Mais très vite, la zone d'action s'est élargie. Élise a décidé de mettre son savoir-faire au service des victimes de guerre. Tout d'abord en Arménie en 2002, puis en Jordanie et aujourd'hui au Kurdistan irakien.
J'étais dans un camp avec des militaires marocains et puis dans des villages voisins qui accueillaient les blessés de guerre. C'était en Jordanie et puis dans le camp de Zaatari, qui est un immense camp, grand comme la ville de Tours. Et puis je suis allée avec notre association plusieurs fois en Jordanie et j'ai eu envie de voir de l'autre côté de la frontière, côté irakien, parce que j'avais appris que dans certains villages chrétiens, parce que dans le camp de Zaatari, c'est essentiellement une population musulmane. Et c'est pour ça que j'ai voulu aller dans le nord de l'Irak, parce que je savais qu'ils arrivaient de Alep, les Syriens arrivaient de Alep. Et donc c'est comme ça que je suis arrivée la première fois, c'était en janvier 2014, dans le Kurdistan irakien. Et puis je suis retournée une deuxième fois, et au mois de septembre, c'est là qu'il y a eu les effets de l'opération menée par le groupe islamiste, le groupe État islamique, voilà. Et j'ai vu quasiment au jour le jour arriver des centaines de familles, des chrétiens, des yézidis. Et c'était choquant. On voyait arriver des vieilles personnes portées par leurs fils. On voyait ces gens qui portent des paquets, des enfants dans les bras, des femmes enceintes. Ils étaient en espèce de sandales, parfois pieds nus, parce qu'il faut savoir qu'au niveau des checkpoints, en fait, les véhicules étaient retenus et les gens sont arrivés pour la plupart à pied. Et à ce moment-là, ce qui était incroyable au niveau du décor, enfin, j'ai jamais vu ça de ma vie, les gens s'installent partout où ils peuvent. C'était l'été, la canicule, il faisait encore 49 degrés. Alors les premiers arrivés sont arrivés dans les églises. Il n'y a pas beaucoup d'églises à Erbil. Et les autres, c'était un peu partout, dans les squares, dans les jardins publics, dans des espèces d'entrepôts ou d'entresols de bâtiments en construction. Il y en avait dans des centres commerciaux, il y avait des espèces de bâtiments annexes aux églises, des centres sportifs, des déchetteries. Il y a une déchetterie où beaucoup de familles yézidis sont encore là aujourd'hui. Ils vivaient sur des espèces de grillages, ils faisaient chauffer de l'eau, croupis, ils n'avaient rien à manger. C'était un désastre.
Et surtout qu'ils avaient vécu des traumatismes affreux.
Il y avait énormément de femmes et d'enfants, des personnes âgées. Il n'y avait pas beaucoup d'hommes. Il y avait beaucoup qui étaient restés retenus ou sur les combats. Et là, je suis restée en fait sur place. Et je me suis intégrée à des équipes locales, dont un médecin qui avait une fondation qui s'occupait de réfugiés. En tout, il y a 2 millions de réfugiés. Sur les 2 millions de réfugiés, 8% d'entre eux vivent dans les camps. Et tout le reste vit en dehors des camps. En dehors des camps, ça veut dire que l'aide n'arrive pas forcément. Ça veut dire que la nourriture, l'eau, les médicaments, les soins n'arrivent pas à eux. Et nous, on s'est déplacés vers ces gens-là. Et clairement, en 10 jours, le constat de cette mission, c'était « mais il faut continuer, les gens ne vont pas rentrer chez eux tout de suite ». C'est-à-dire que nous, on arrivait avec notre voiture et nos aiguilles, notre petite valise, et puis on s'installait n'importe où. Quand le vent soufflait, c'était affreux. J'avais les yeux inflammés, on était par terre pour piquer les gens dans le sable. Lorsqu'il fallait déshabiller quelqu'un, une femme, ou ouvrir le ventre d'un homme, enfin, il fallait que les enfants se mettent aux quatre coins avec des couvertures sales en plus pour qu'on puisse découvrir les gens, les soigner. Enfin, il n'y avait pas d'intimité, tout le monde regardait. Quand il faisait nuit, on essayait de trouver des torches, on sortait les iPhones qui étaient déchargés une fois sur deux pour avoir un peu de lumière. On n'avait pas d'eau, on avait trop chaud, il n'y avait pas de clim, enfin c'était affreux. On se disait, on ne peut pas continuer comme ça, il faut absolument qu'on ait quelque chose, un petit hôpital mobile, voilà. Et donc on a pensé acheter un bus, et puis finalement ça a été un camion. Et on l'a acheté avec une opération de levée de fonds, parce qu'on n'avait rien dans les caisses à ce moment-là. On a en 2 mois trouvé de l'argent qu'on est allé chercher partout. On a eu la réserve parlementaire d'un député socialiste, Jean-Marc Germain. On a eu un soutien très important de la Fondation Bettencourt. Et puis surtout le public, on a sollicité à travers les réseaux sociaux tout un tas de gens pour qu'ils nous fassent des dons symboliques de 1 euro, de 5 euros. Donc ça, c'était à l'automne. Après, on a acheté le camion. Il a voyagé par bateau. Et au mois de janvier, il a été inauguré et la mission a démarré officiellement à ce moment-là pour 6 mois.
Donc vous avez traversé la Turquie ?
On a traversé la Turquie, on a eu des problèmes de douane, des problèmes de médicaments. Puis le grand soulagement, c'est quand vous recevez un coup de fil de la douane irakienne parce que votre camion est enfin arrivé.
Vous avez embauché plusieurs médecins sur place ?
Ça, c'est une grande fierté. J'ai les yeux qui brillent quand je pense à mon équipe parce que une équipe multiethnique de réfugiés, des gens qui viennent de Kobané, de Mossoul, de Syrie, c'est des médecins qui ont tout perdu, qui vivaient comme des rois, qui avaient tout, ils avaient leur famille, leurs enfants, leur métier, leur maison, ils vivent dans des camps. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans un pays comme celui-ci, où c'est pas mon pays, c'est pas ma langue, c'est pas ma culture, sont pas mes amis, sont pas mes collègues de travail, mais on a réussi à créer une équipe tellement active. Ce sont des gens qui travaillent tellement. Notre pharmacien, il a une espèce de bloc-notes dès qu'il nous manque dans notre stock, un médicament, quelque chose, n'importe quoi, même pour une patiente, on avait une complication avec une femme, il fallait qu'on achète un masque à oxygène. Enfin, c'est une équipe qui s'implique même pour un cas, parce qu'ils ont face à eux des êtres humains qui vivent la même tragédie qu'eux. Presque tous les jours, on est en relation. Et chaque jour, j'ai un compte-rendu du nombre de consultations qui a été donné. Ils travaillent vraiment en donnant le meilleur d'eux-mêmes. Ça, c'est vraiment une fierté.
Enfin, il y a combien de consultations par jour ?
Alors, on a 7 médecins. Un généraliste, un chirurgien, un infirmier, un gynécologue, un pédiatre. On a créé une consultation d'acupuncture, un pharmacien. Et on donne une moyenne de 300 soins par jour. On se déplace aujourd'hui sur 18 sites qui couvrent 2 provinces. Donc on a un planning de 6 jours sur 7 où on essaye de couvrir l'ensemble de ces sites. On a énormément de personnes âgées. Et beaucoup de femmes et d'enfants, puisqu'ils représentent à eux seuls les 3/4 de la population. Et là, on a décidé d'acheter un deuxième véhicule, cette fois-ci dédié pour les femmes uniquement.
Ils ont accepté facilement l'acupuncture ?
Oui, oui, on a monté une classe d'ailleurs pour 20 médecins, des médecins chrétiens et yézidis. On a 20 médecins qui ont appris l'acupuncture, dont notre équipe. Et en fait, c'est très très bien intégré parce que les douleurs représentent la majorité des motifs de consultation, que c'est compliqué de trouver des médicaments. Il y a beaucoup de problèmes de contrefaçon et des problèmes de blocus. Hein. Donc c'est pas toujours évident de passer les frontières avec les médicaments. Que nous, on commande, il y a 3 pharmacies agréées par l'OMS à Erbil, mais souvent au niveau des antalgies qui sont en rupture de stock. Donc quand il y en a, on en achète. Quand il n'y en a pas, on est bien content d'avoir l'acupuncture. Et là, maintenant que nos médecins pratiquent l'acupuncture, c'est vraiment une révolution. C'est super parce que on fait des économies en plus sur les dépenses de médicaments. Les aiguilles coûtent pas cher. On a reçu énormément en donation par Sinovital, qui fabrique du matériel de médecine chinoise. Quand je vous parlais des 300 soins par jour, c'est possible parce qu'il y a aussi l'acupuncture. Sinon, c'est pas évident quand vous avez uniquement des diabétiques, des patients avec l'hypertension, ou des cas de chirurgie, ou des blessures de guerre mal soignées, ou des enfants avec des pneumonies. On a eu beaucoup, par exemple, cet hiver. Avec l'acupuncture, ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut soigner beaucoup de douleurs, je ne vais pas dire tout, hein, parce que évidemment les douleurs des cancers, on ne peut pas, quand on n'a rien, que le patient... C'est des situations tellement complexes, mais ce qui est génial, c'est que quand vous roulez sur les montagnes du Kurdistan, dans des sites où le point n'existe même pas sur le GPS, et vous arrivez avec vos aiguilles, finalement, pas besoin de gros dispositifs médicaux et qu'on peut soulager les vieilles personnes qui ne marchent plus, c'est génial.
Élise, à travers toutes ces missions, qu'est-ce que vous avez découvert sur vous que vous ne soupçonniez pas ?
Une espèce de confiance et de force. Je crois que depuis que je fais ça, j'ai moins peur de la mort, de la souffrance, j'ai moins peur de la vieillesse, parce que Je trouve que dans ces moments-là où on peut, même si c'est l'échelle d'une goutte, ça apporte une telle source de bonheur intérieur. Et je ne dis pas ça au sens ni judéo-chrétien. Ni... C'est vraiment très personnel comme démarche. Ce que je ressens, c'est oui, une espèce de force et en même temps d'apaisement. Peut-être que je me sens plus en paix depuis que je fais ça.
Élise Bogossian, quel est pour vous le sens de la vie ?
Le plus important, c'est de réussir à, d'essayer de devenir ce qu'on est vraiment. Finalement, on vit sous l'emprise de notre histoire, du regard des autres, forme de culpabilité par rapport à ce qui peut se faire, ce qu'on ne peut pas faire. Trouver un moyen de réaliser ce qu'on est vraiment, qui nous apporte du bonheur intérieur, nous permet de vivre mieux et plus en harmonie avec les autres. Et peut-être que ces missions m'apportent ça. Et voilà, c'est mon chemin.
C'est ce que vous transmettez à vos enfants ?
Oui, 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 oui. Je leur raconte de quantités d'histoires imaginaires avec des personnages imaginaires qui parcourent le monde et qui font des rencontres. Et souvent, mes enfants sont les acteurs de ces histoires et ils se font tout un tas d'amis avec des espèces de personnages de toutes les cultures, des animaux. Et souvent, je les emmène voyager comme ça dans un monde irréel où tout est possible. Et en même temps, je leur explique beaucoup ce que je fais, pourquoi je le fais, que j'aimerais qu'ils viennent avec moi quand ils sont un peu plus grands. Et je fais toutes ces missions comme s'ils étaient auprès de moi. J'essaie de leur transmettre en tout cas cette envie de partager, de ne pas être replié sur leur propre monde, sur leurs propres problèmes, sur leurs propres besoins de vie, de consommation, mais plutôt de vivre en relation avec les autres. On est très chanceux. Ce qui me rendrait triste, finalement, c'est de partir sans avoir été capable de leur transmettre l'envie, le besoin d'être utile et de vivre en harmonie avec les autres, mais aussi dans le partage. Ça me tient très à cœur. Oui, ça me rendrait vraiment, vraiment malheureuse de partir sans avoir été capable de leur transmettre ça.
Encore merci à Élise Bogossian de m'avoir accueillie et d'avoir trouvé un petit moment dans son emploi du temps entre deux voyages au Kurdistan. Alors si vous avez envie d'aider l'association Chenang Avicenne, nous mettons le lien sur notre site franceinter.fr, partir avec Marie-Pierre Planchon. Et je vous rappelle également que vous pouvez podcaster et écouter cette émission et les anciennes et les partager avec vos amis. Je vous donne rendez-vous dimanche soir prochain pour une nouvelle rencontre, une nouvelle aventure. Je vous souhaite une très très belle semaine et comme le disent les Grecs, Kalinikta, que votre nuit soit douce et sucrée. Après les infos, restez à l'écoute de Manval qui vous réserve une de ses plus belles surprises. Vous écoutez France Inter, il est minuit.